Et une nouvelle édition de l'économie en question. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui demeure la principale préoccupation des Français à moins de 5 semaines de l'élection présidentielle, le chômage. Au quatrième trimestre, la France affiche un taux de chômage de 9,7% en métropole, soit 0,1% de moins qu'au trimestre précédent. L'Institut de statistique, qui n'a pas encore publié la moyenne annuelle, comptabilise aujourd'hui 2,8 millions de demandeurs d'emploi, donc dans l'Hexagone, sur ces 3 derniers mois de 2016. C'est moins que les années précédentes et en matière d'emploi, le quinquennat de François Hollande semble devoir se terminer sur une note positive, d'autant qu'une série d'indicateurs plutôt encourageants devraient permettre de poursuivre cette baisse amorcée. Mais amorcée seulement, car la reprise économique en Europe est encore bien trop lente pour espérer une résorption rapide du chômage. Trop d'incertitudes politiques, bien sûr, par exemple renchérissement de l'euro ou celui du pétrole ailleurs dans le monde. En d'autres termes, même si la situation semble s'améliorer sur le front de l'emploi en France, on est sans doute loin de revenir au taux d'avant la crise. Et puis le calcul a été fait. Si ce rythme très modéré se poursuit, il faudra 7 ans pour retrouver le taux de chômage d'avant 73. Avis au prochain président de la République. Y parviendra-t-on? À quelles conditions? À quel prix? C'est notre sujet aujourd'hui en forme de bilan. Et bien sûr, de propositions, inversion de la courbe, recul, assurance chômage aussi, c'est l'actualité de la semaine. A-t-on vraiment tout essayé ? Et mes invités, Anne Hédoux, maîtresse de conférence en sciences économiques au CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers, chercheuse également au Centre d'études de l'emploi et du travail, Jérôme Gauthier, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui a publié Le chômage, édition La Découverte, et Bertrand Martineau, également économiste, auteur, lui, de Pour en finir avec le chômage, c'était il y a 2 ans, ça reste bien actuel si l'on regarde son ouvrage. Enfin, la chronique de Marie Bélan, journaliste aux Échos, chronique d'ailleurs qui sera peut-être intégrée à notre débat, puisque Marie a prévu justement de parler de l'assurance chômage. Je vous ai demandé à chacun de venir aussi avec un chiffre. On verra cela en toute fin d'émission. C'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Un point sur lequel vous serez sans doute d'accord pour commencer, je l'ai dit, 2,8 millions de personnes au chômage au sens du Bureau international du travail, toujours ces distinctions à faire avec celle de Pôle emploi. Chiffre qui donc indique une baisse sur une année, chiffre insuffisant, vous en êtes tous d'accord ou c'est plus compliqué que ça? Qui veut commencer, Jérôme Gauthier?
En forme de bilan, cette fois. Oui, la baisse est faible, mais les dernières indications que l'on a quand même, c'est une création très importante d'emplois sur l'ensemble de l'année 2016. Hein, près de 190 000 emplois dans le secteur marchand.
C'est significatif quand même.
C'est significatif parce que ça fait une augmentation de 1,2% de l'emploi et à comparer avec un taux de croissance qui reste quand même relativement modeste, même s'il est important par rapport au taux de croissance qu'on a connu les années précédentes, mais avec un 1,2% aussi estimé par l'INSEE, c'est une richesse en emploi de la croissance, comme on dit, assez exceptionnelle en fait.
Oui, et dans diverses professions, le BTP, qui était le premier impacté, montre des progrès très sensibles.
C'est un exemple. Les services, mais en revanche, ça reste
faible. On va affiner après sur les catégories de population, bien sûr, jeunes ou plus âgés, qui restent les deux les plus affectés, mais on verra également au centre. Bertrand Martineau, premier bilan peut-être.
Ça va mieux que quand ça allait plus mal. C'est-à-dire que, effectivement, le chômage diminue un petit peu. Il y a une vraie performance sur les créations d'emplois, ce qui est finalement le juge de paix. Créer pratiquement 200 000 emplois avec à peine un peu plus de 1% de croissance, ça relève quasiment de l'exploit. Et ça s'explique essentiellement par les baisses de charges massives, exceptionnel et pas durable d'ailleurs, qu'a décidé le gouvernement cette année pour doper un peu l'emploi. Il n'en reste pas moins que si on regarde le bilan du quinquennat, la France est un des très rares pays européens qui finit en 2017, enfin fin 2016, avec un chômage supérieur à ce qu'il était en 2012. Et c'est quand même, on n'a pas de quoi en être fier.
Et je rappelle, on va y revenir sur les chiffres européens, que la baisse est quand même générale, mais avec des nuances sur lesquelles il faudra revenir. On l'a souvent répété dans cette émission, il faut 1,5% de croissance, effectivement, pour résorber durablement le chômage. Et vous aussi, vous pointez quand même qu'on n'y est pas et qu'on a quand même fait des progrès. Anne Hédoux.
Alors oui, c'est une embellie.
Et pourquoi ?
C'est une embellie qu'on ne peut pas bouder, ça c'est sûr. Simplement, c'est une embellie fragile. Quant à la rapporter aux politiques d'allègement des cotisations, là, c'est très imprudent. On n'a absolument aucune évaluation en ce sens. Et il y a d'autres paramètres qui peuvent expliquer l'embellie en France comme ailleurs. C'est-à-dire la situation de l'euro, des matières premières, enfin voilà.
Oui, la remontée oui. De ces deux secteurs qui quand même sont influent très très durablement. Si l'on en vient maintenant aux différentes catégories de population, ça nous permet de revenir aussi sur quelques mesures phares qui ont été adoptées par ce quinquennat. On n'est pas que sur le bilan, on va avancer aussi bien sûr sur vos propositions, mais tout de même, on nous a beaucoup répété les jeunes les plus sensiblement touchés, ça reste vrai, mais en revanche dans les progrès observés, ils sont aussi les premiers à progresser. Enfin, leur nombre d'entrée dans le travail. Jérôme Gauthier, alors, vous avez travaillé sur ces mesures-là.
Oui, alors, de façon générale, c'est normal. Les jeunes sont les plus sensibles à la conjoncture, en fait. C'est-à-dire que quand la conjoncture se dégrade, leur taux de chômage augmente parce que les entreprises n'embauchent plus, tout simplement. Et donc, ce sont les premières victimes. Et quand la conjoncture repart, ils ont tendance à passer peut-être devant aussi des chômeurs plus âgés, des chômeurs de longue durée. Alors, pour les jeunes, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un déploiement assez massif au cours des 5 dernières années de politique du marché du travail, comme on dit, qui leur était destinée, notamment les emplois d'avenir ou d'autres mesures, plus récemment la garantie jeune. Et ces mesures ont eu un effet, effectivement, au moins à court terme, sur le taux de chômage, en fait.
Oui, prenons-en une peut-être, celle que vous décidez d'examiner.
Oui, alors, il y a deux mesures que j'ai citées. Les emplois d'avenir, il y a eu pratiquement 300 000 jeunes, à peu près 300 000 jeunes qui sont rentrés dans cette mesure depuis 2012. C'est une mesure qui s'est déployée principalement dans le secteur non marchand, mais qui a commencé aussi à se déployer un peu dans le secteur marchand, et qui, par rapport à des mesures classiques d'emploi aidé précédentes, repose sur un volet formation quand même plus important. Bon. Alors même si la Cour des comptes, dans un rapport récent, a dit que ça restait insuffisant, un remet en cause ce type de mesure, c'est quand même une mesure qui va un peu plus dans le bon sens que simplement des mesures peut-être qui étaient plus occupationnelles par le passé. Voilà. Oui. La garantie jeune, c'est une mesure plus originale, d'accompagnement renforcé en contrepartie d'une allocation. Les premiers éléments d'évaluation, alors il faut être toujours très prudent sur les évaluations que l'on a, ça a plutôt un effet aussi positif, sur une population jeune, elle, très vulnérable, assez éloignée du marché du travail. Donc il semblerait que là aussi, ça aille dans le bon sens.
Plus généralement, des mesures, par exemple, comme mise en place d'un droit, je crois que c'était en 2015, à une formation qualifiante gratuite, mais ça s'adresse à tout le monde. Mesure également intéressante de votre point de vue, Bertrand Martineau.
Un des très, très nombreux droits...
compte personnel de formation,
qui sont dans le droit du travail, qui ne sont pas financés ou insuffisamment financés. Donc on est plutôt dans l'ordre de la déclaration de principe, comme beaucoup de choses, comme un peu le compte personnel d'activité, d'ailleurs, qui est pas financé, donc c'est très bien, mais c'est pas financé, donc il y a quand même un sujet. Sur les politiques menées ces dernières années en faveur des jeunes, je serais un peu moins laudateur que Jérôme Gauthier. Bon, les emplois d'avenir, c'est quand même une vieille politique qui consiste quand même à parquer des jeunes dans des emplois non marchands, avec une issue pas toujours très favorable pour un peu dégonfler les chiffres du chômage. Donc ça explique effectivement la relative bonne tenue sur l'ensemble du quinquennat. C'est quand même massif, 300 000 jeunes, relativement bonne tenue des jeunes, du chômage des jeunes sur le quinquennat. Enfin, on est quand même à 23% de taux de chômage. C'est pas non plus extraordinaire. Enfin, dis-moi qu'il s'est pas dégradé au cours du quinquennat. J'insisterai quand même sur...
Vous le présentez un peu comme un leurre, là, au fond, non?
Ah oui, complètement. Oui, mais c'est tout à fait assumé. On mène ces politiques depuis le milieu des années 80. Donc, on a quand même un certain recul. On a quelques milliers de pages d'évaluation par les meilleurs économistes et économètres de la place. Donc, on sait très bien à quoi mènent ces emplois. On sait très bien que sur ce type d'emploi, un jeune n'a pas de meilleure perspective d'avenir avec ses emplois que le même jeune qui ne serait pas passé par ses emplois. Enfin, j'insiste...
On va laisser peut-être Anne Hidou vous répondre.
Juste peut-être pour finir le panorama général, il n'a pas été évoqué la question de l'apprentissage. Or, on a assisté à un véritable massacre de l'apprentissage au cours de ce quinquennat sur les niveaux 5 et 4, c'est-à-dire au niveau du bac et infra-bac. Donc l'apprentissage a continué à se développer dans le supérieur, ce qui est facile, ça se développe tout seul. Ça permet d'avoir des études gratuites et puis c'est très attractif. Mais au niveau bac et infra-bac, c'est une véritable catastrophe. Et de ce point de vue-là, les signaux tout à fait ambivalents et aléatoires du gouvernement sur ce sujet pendant 5 ans n'ont pas contribué à redresser la situation.
Anne Hidou répond, je crois.
Oui, je pense que je partage certaines choses qui ont été dites. Je pense que si on prend les choses autrement, on a un déficit en France de plus de 4 millions d'emplois. Quand on regarde le nombre de chômeurs et de demandeurs d'emploi au sens de Pôle emploi et du ministère du Travail, Et que les jeunes, voilà, sont aux avant-postes de ce déficit d'emploi, à la fois en termes de taux de chômage, et puis, je dirais, en termes de précarité de l'emploi. C'est-à-dire que, effectivement, l'emploi des jeunes est très sensible à la conjoncture, mais l'emploi des jeunes aussi, et notamment depuis la crise, s'est considérablement précarisé. C'est-à-dire que, avant la crise, la plupart des jeunes qui avaient un emploi était en CDI, et depuis 2010, eh bien, ça s'est inversé, et c'est plutôt 45% des jeunes en emploi seulement qui sont en CDI. Donc, voilà, les jeunes sont très exposés à la précarité pour leurs premiers emplois. Et puis, je dirais, les jeunes les moins qualifiés sont exposés aux emplois aidés. C'est-à-dire qu'effectivement, un très grand nombre d'entre eux s'insèrent. Alors, on peut d'un côté dire grâce aux emplois aidés, que se passerait-il sinon, mais d'une certaine façon, cumulent ces formes de précarité qu'offrent les emplois aidés. Donc,
Mais parleriez-vous d'un leurre aussi sur les propositions qui sont faites? Bertrand Martineau est très sévère.
Oui, on ne sortira pas du chômage avec des dispositifs d'emploi aidé, même s'ils aménagent les marges du chômage.
Oui, vous êtes quand même d'accord sur ce point, Jérôme Gauthier.
Oui, enfin, je ne suis pas très laudateur, en fait, hein, sur les emplois d'avenir, il ne faut pas exagérer. Bon, ce que je disais juste, c'est que par rapport à des emplois qui ont été développés dans le passé, ils permettent un meilleur accès à la formation.
Ils étaient mieux ciblés.
Ils étaient mieux ciblés et meilleur accès à la formation. Il y a quand même 50% des jeunes qui ont accédé à des formations certifiantes, en fait, hein, avec des durées moyennes de formation de 26 jours. Donc, ce n'est pas complètement anodin. Alors après, évidemment, c'est des mesures qui permettent à court terme de camoufler le chômage des jeunes, etc. Et pour rebondir sur ce que dit Annette, et si on en revient au bon chiffre de l'emploi 2016, que l'on constate effectivement, c'est que c'est massivement grâce au rebond de l'intérim quand même, hein, les très bons chiffres de l'emploi 2016. Donc ça va aussi dans le sens de attention aux indicateurs et ils peuvent cacher effectivement une précarité croissante.
Oui, ce qui nous amène à rentrer dans des comparaisons européennes. Je crois qu'on peut difficilement parler d'emploi sans élargir un peu à niveau plus macro, de parler d'emploi en France sans comparer. Vous nous dites, Bertrand Martineau, effectivement, la France reste quand même dans le peloton de queue. Ce qui reste à démontrer, non, je ne sais pas, sur l'ensemble des chiffres. Je donne des chiffres plus généraux. Le taux de chômage moyen, je parle des 19 pays, je parle de la zone euro, donc recule, lui aussi, de 0,1 point. Ce n'est pas énorme sur un mois, de 0,8 sur un an, et il s'établit à peu près à 9,8, donc des taux comparables à celui de la France. Je parle du niveau moyen, mais c'est considéré comme un record depuis avril 2011. Après, si l'on affine un peu et que l'on va, par exemple, vers le Royaume-Uni, vers l'Allemagne, on retrouve ces contrats extrêmement fragiles et précaires dont vous parlez les uns et les autres, adressés en priorité aux jeunes. Le cas de l'Allemagne, notamment, est tout à fait intéressant. On peut en dire un mot, Jérôme Gauthier. Moi, j'ai quelques chiffres quand même très édifiants.
Oui, alors l'Allemagne est un cas très intéressant. Je rappellerai juste quand même, parce que, alors c'est pas encore le chiffre du jour, mais c'est quand même un chiffre assez étonnant, que l'on a oublié. En 2007, juste avant la crise, en fait, hein, en prenant les chiffres de l'OCDE harmonisés pour pouvoir comparer vraiment les taux de chômage. L'Allemagne avait un taux de chômage de 8,5%. Il était au-dessus de la Grèce.
En 2007.
En 2007, ah oui. Hein, juste avant la crise. Il était au-dessus de celui de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie. L'Italie était à 6,1%. Bon. Donc, cette image comme quoi les pays du Sud seraient condamnés à un chômage élevé, etc., alors que les pays du Nord seraient toujours vertueux, etc. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on regarde les chiffres, l'Allemagne est tombée à moins de 4%. Et bon, et on connaît les chiffres de la Grèce, de l'Espagne. L'Espagne, on est à 19%, la Grèce, on est à 23%, etc. Donc une inversion complète, des trajectoires complètement divergentes et qui sont d'ailleurs communes d'ailleurs. Hein. Si on prend les pays d'Europe du Nord, c'est-à-dire Danemark, Pays-Bas, Suède et Allemagne, aujourd'hui on a un taux moyen, si on pondère par la population, de 4,5% dans cette zone-là, alors qu'on a 15% dans les Portugal, ouais, Italie, ouais, Grèce, ouais. Espagne. Bon, donc on a eu des trajectoires complètement divergentes et qui ne s'explique pas principalement, je pense, par des réformes du marché du travail, en fait, hein, si on rentre dans le temps. Il y a eu aussi des phénomènes macroéconomiques et je pense que ça, c'est important pour recadrer peut-être un peu le débat que l'on peut avoir quand on fait des comparaisons internationales.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle de flexibilité du travail, qui est un mot maintenant qui est quand même rentré dans le langage courant et qui petit à petit est admis, j'allais dire, dans le langage courant aussi, alors que ça n'était pas le cas il y a encore quelques temps. On n'est pas dans les mêmes situations selon que l'on est en temps de crise ou pas. Je veux dire, la flexibilité, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette analyse, mais je la relève quand même chez beaucoup d'observateurs et beaucoup d'économistes. On ne parle pas de la même chose. Donc je reviens sur le cas de l'Allemagne. Bertrand Martineau, oui, là-dessus.
On est toujours en temps de crise. C'est ça le problème. Hein. C'est-à-dire qu'à force de dire on attend parce qu'il va y avoir la crise, bon, je rappelle quand même.
Mais l'Allemagne, par exemple, est dans une situation économique plus favorable.
Oui, non, mais attendez. La France a un taux de chômage moyen depuis 1985 de 9% de la population active. Voilà, il faut remettre les choses. Voilà, donc ce qui s'est passé depuis 2012 est certes très intéressant, mais il faut quand même reprendre un peu de. Voilà. Mmh. Depuis très longtemps, on s'est terriblement éloigné d'une situation de plein emploi. Et c'est quand même une des spécificités françaises. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui ont cet aussi mauvais record sur les dernières années. Maintenant, je suis d'accord aussi avec Jérôme Gauthier. Les divergences aujourd'hui entre pays européens renvoient aussi beaucoup, pas uniquement, mais beaucoup à des divergences macroéconomiques. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que c'est la zone euro derrière qui est en jeu. Voilà,
à des choix différents.
Et bien sûr. Des choix différents, des choix de finances publiques aussi, des choix de stratégie de compétitivité. Alors des choix inconscients en termes de négociations salariales, puisque en fait, le succès allemand, si on regarde bien les chiffres, c'est pas des réformes colossales sur le marché du travail qui n'ont pas véritablement eu lieu en fait. C'est une modération salariale extraordinaire qui a commencé à la fin des années 90, de manière négociée au niveau des branches. C'est ça la supériorité de l'Allemagne. Plus un certain nombre de facteurs un peu géo-économiques qui sont l'émergence d'un gigantesque marché à l'Est, plus la qualité de la formation initiale et professionnelle allemande. Donc on peut imaginer, il y a plein d'explications, mais l'explication macroéconomique principale, c'est la grande modération du coût du travail, et puis c'est le fait que la zone euro est bien adaptée macroéconomiquement à la situation allemande, ce qui est moins le cas probablement que des pays du Sud.
C'est vrai, en revanche...
C'est un euphémisme, oui.
En revanche, un taux de pauvreté qui a cru quand même en Allemagne, et une extension des contrats très très courts et très peu protégés, qui touche davantage les femmes, les jeunes à Nedou.
Alors oui, je vais revenir sur la question de la zone euro, parce que je pense que c'est très important. Vous avez évoqué la baisse du chômage minime en un an, le taux de chômage élevé. Il y a un problème de gouvernance économique de la zone euro qui a empêché les États membres de mener des politiques de relance de leur activité. Et du coup, on pourrait revenir sur la manière dont ils sont rentrés dans l'euro. Hein. Normalement, une monnaie unique, c'est réservé à des pays dont les paramètres économiques sont semblables. Et là, c'était pas du tout le cas. Et effectivement, on assiste à une divergence prévisible entre ces pays-là. Donc vous dites,
Bertrand Martineau, que
l'Allemagne a mis en place une modération salariale sur le long terme dont elle continue à profiter aujourd'hui. Je dirais que c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que l'Allemagne a un excédent extérieur excessif, comme on dit dans la zone euro et dans l'Union européenne. Mais cet excédent extérieur, il s'explique aussi beaucoup par l'insuffisance de sa demande intérieure. Et donc, si les choses venaient à mal tourner pour le commerce extérieur allemand, ils auraient cette fragilité-là.
Ce qu'on ne voit pas arriver pour l'instant.
Non, on ne le voit pas arriver. Mais voilà. Et donc, c'est un pays qui souffre quand même de l'insuffisance et de ses investissements et de sa demande.
Oui.
Et puis, il souffre par ailleurs, effectivement, de deux choses. La montée des contrats précaires dans les services qui touchent surtout les femmes. Et puis, le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage qui fait que la pauvreté des chômeurs a explosé en Allemagne.
Même chose à peu près au Royaume-Uni, hein, qui a une baisse aussi très très significative et très spectaculaire du chômage. La hausse du taux d'emploi en partie due à une augmentation de 12,5% du nombre de contrats dits zéro heure. Vous savez, ces fameux contrats qui ne garantissent aucun horaire à l'employé, qui se passe beaucoup via les téléphones portables. On vous appelle, on vous décommande de manière extrêmement rapide et qui a bien entendu contribué à une très forte explosion avec ce type de contrat, une très forte explosion de la pauvreté. C'est quand même un point à signaler. La protection sociale, on n'a pas le temps d'y revenir, mais c'est quand même au centre, hein, avec la conjoncture macroéconomique que vous relevez, Jérôme Gauthier.
Oui,
et là encore, la France a quand même quelques garde-fous.
Quand on s'intéresse au chômage, on se focalise toujours évidemment sur l'indicateur du taux de chômage. Mais cet indicateur, en fait, signifie des choses assez différentes selon les pays. C'est pas un hasard si, avec des taux qui sont considérés comme des taux de plein emploi, hein, des taux de chômage de l'ordre de 5%, c'est peut-être pas un hasard si Trump a été élu aux États-Unis et le Brexit a été voté au Royaume-Uni. C'est-à-dire que derrière ces taux de chômage, on peut soupçonner qu'il y a des vrais problèmes économiques et sociaux, en fait. Bon. Ce qui est peut-être moins le cas en Hollande. Je pense pas qu'on puisse faire exactement le parallèle. C'est peut-être un vote plus identitaire en Hollande où les inégalités sont moins fortes et les problèmes sous-jacents sont peut-être moins forts. Mais dans ces deux pays, au moins au Royaume-Uni, je pense que le taux de chômage cache en fait une situation économique et sociale moins brillante que on pourrait le croire en fait.
Ouais. Parlons de l'actualité à présent, mais on est complètement dans le sujet naturellement avec l'assurance chômage. On le sait, enfin on n'y est pas encore. Nouvelle illustration, c'était cette semaine des négociations très difficiles entre partenaires sociaux. Vous avez évoqué là encore notre voisin allemand qui est plutôt plus au point sur cette question. L'assurance chômage, les contrats courts par exemple, qui coûtent très cher à l'assurance chômage. La dette de l'assurance chômage s'élève aujourd'hui à plus de 30 milliards d'euros. Syndicats et patronats ne se sont pas mis d'accord. Vous les renvoyez dos à dos d'ailleurs, Bertrand Martineau, dans votre ouvrage, puisque vous dites, les demandes des uns et des autres sont de toute façon exorbitantes.
C'est un peu du théâtre, mais pas forcément du bon. Hein. C'est les portes qui claquent. C'est un peu du vaudeville. Les partenaires sociaux sont inquiets de la perspective d'arriver à l'Élysée d'un candidat. Enfin, il y en a deux, en l'occurrence, qui agirait très directement sur l'assurance chômage. Il y en a un qui propose, c'est Emmanuel Macron, de l'étatiser.
On va y revenir,
l'autre ne propose pas, François Fillon ne propose pas de l'étatiser, mais il veut prescrire un certain nombre de remèdes qui fait que de fait, les partenaires sociaux perdraient largement la main. Donc il y a un réflexe un peu corporatiste des partenaires sociaux qui consiste à dire, compte tenu de ce qui risque de nous arriver, essayons de montrer que nous sommes des grands garçons responsables, des grandes filles aussi responsables, on peut se mettre autour de la table et faire une vraie réforme de l'assurance chômage. Ce qui bute évidemment là-dessus, c'est la question des contrats courts, de l'éventuelle surtaxation entre guillemets des contrats courts, et ils vont avoir du mal effectivement à conclure. Mais
le patronat veut leur envoyer aux négociations de branche, qu'il ne veut pas s'en occuper directement.
Bien sûr.
C'est ça.
Mais en fait,
parce que c'est très cher, plus d'un milliard d'euros.
Le fait que les portes claquent comme ça, ça ne veut pas dire que la négociation n'aboutira pas. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est le théâtre.
Ouais, enfin, on verra la suite. Hein. C'est pour la fin du mois encore.
Ils doivent arriver à se mettre d'accord. Signer un vrai nouvel accord d'assurance chômage qui ne serait pas purement cosmétique à quelques semaines d'une élection présidentielle, ce serait quand même du jamais vu. Parce qu'en général, tout est gelé. Mais on vit une époque très particulière.
Alors on va quand même saluer, ils ont un petit peu progressé sur les chômeurs âgés, pour qui on peut reculer de 50 à 69 ans, c'est ça, hein, pour entrer pleinement dans ce qu'on appelle la filière senior. Ça c'est un progrès à relever de cette semaine. L'occasion de demander à Marie Bellan, qui avait préparé un papier, notre partenaire des Échos, qui avait préparé un papier sur ce sujet assurance chômage, parce qu'elle a... pas encore un scoop, mais quand même, un chiffre que nous n'avons pas, même pas Bertrand Martineau, pourtant très au courant.
Un chiffre intéressant, donc, qui est effectivement sur la réforme de l'assurance chômage que propose Emmanuel Macron, qui est quand même très singulière, il faut le dire. D'abord parce qu'il veut étatiser le système, ce qui serait quand même assez novateur. Et surtout parce qu'il propose d'étendre donc l'indemnisation du chômage aux salariés démissionnaires. Alors, cette mesure, il faut le rappeler, c'est quand même une des plus populaires dans les meetings. Elle est souvent très applaudie. Enfin, ça parle beaucoup aux électeurs. Donc, d'où l'intérêt quand même d'en connaître le coût réel ou en tout cas une estimation. C'est ce que l'Institut Montaigne a essayé de faire dans un chiffrage que nous publions dans les Échos, dans l'édition du week-end. Alors, le détail du chiffrage est très bien fait. Je vous renvoie à la note. Je vais juste vous donner quelques indications pour vous donner quand même une idée de ce que coûterait cette mesure. Alors, ils retiennent un flux annuel de démission qui serait de 1 million, qui est une moyenne sur les dernières années, dont 70% seraient éligibles au nouveau dispositif, parce qu'il y a quand même des conditions d'éligibilité. Hein. Il faut avoir cotisé pendant au moins 4 mois et on a droit à une démission indemnisée tous les 5 ans. Donc, partant de cette base-là, l'Institut Montaigne reprend l'hypothèse que la mesure donc entraînerait une hausse conjoncturelle de 20% des démissions à peu près, puisque il y aurait l'effet bien sûr comportemental, mais aussi peut-être l'amélioration attendue du marché du travail qui induirait aussi des démissions supplémentaires. Et avec une durée d'indemnisation limitée à 4 mois, vous voyez c'est assez peu, hein, la facture s'élève déjà à 2,7 milliards d'euros. Hein, et il suffit d'augmenter la durée d'indemnisation à 9 mois pour qu'on grimpe à 5,4 milliards versus les 1,44 milliards que le candidat a lui-même chiffré pour sa propre mesure. On voit que le différentiel, il est quand même loin d'être neutre. Et encore, je ne vous parle que d'une partie de la réforme, parce qu'on en parlera peut-être après, mais il y a aussi un élargissement aux indépendants en cessation d'activité, ce qui est encore un autre sujet.
Donc c'est quand même un chiffre nettement plus important que celui qui est annoncé par le candidat. On va revenir sur les mesures à proposer par les autres candidats. Peut-être un mot là-dessus, Anne Edou. Cette proposition, et puis plus globalement, cette question d'assurance chômage qui est quand même très importante dans le chiffrage du chômage, naturellement.
Je pense que toute proposition pour améliorer l'indemnisation des chômeurs est bonne à prendre et à discuter. Donc, parce que voilà, il faut savoir que aujourd'hui, 37% des demandeurs d'emploi sont pauvres, que la moitié des demandeurs d'emploi seulement sont indemnisables par le régime d'assurance chômage et que seulement 39% sont effectivement indemnisés. Puisque les autres travaillent, sont dans une situation qui fait que temporairement, ils sont pas indemnisés. Voilà. Donc, compte tenu du taux de chômage, du taux de pauvreté des chômeurs, effectivement, c'est intéressant de chercher à améliorer les protections. Maintenant, bien sûr, je dis ça, mais on vient de parler aussi du déficit de l'UNEDIC et des difficultés des partenaires sociaux à négocier une nouvelle convention. Donc oui, peut-être que la question n'est pas d'enlever l'UNEDIC aux partenaires sociaux, mais plutôt d'une intervention de l'État, ce qui s'est déjà fait par le passé, qui pourrait très bien voler au secours. On est en période de crise, comme vous l'avez dit, Monsieur Martineau, et donc l'État pourrait voler au secours de l'assurance chômage.
Assurance chômage, les autres candidats, je le dis rapidement, ils sont moins avancés. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le programme d'Emmanuel Macron, comme l'a dit Marie Bellan, c'est quand même une mesure phare qui est très reprise. Marine Le Pen propose de réduire le déficit de l'UNEDIC en instaurant une taxe additionnelle sur tout nouveau contrat d'employé étranger. Sans surprise, la recette ainsi constituée serait versée à l'indemnisation des chômeurs. Jean-Luc Mélenchon propose quant à lui de faire reconnaître un droit opposable à l'emploi, l'État devenant l'employeur en dernier ressort. C'est une mesure très forte aussi. François Fillon propose lui d'économiser 10 milliards d'euros sur l'assurance chômage en cours de quinquennat. Et il prévoit à cette fin d'activer deux leviers, plafonnement des allocations, 75% de remplacement du salaire de référence, d'une part, forte dégressivité des allocations, d'autre part. Enfin, Emmanuel Macron, on l'a dit, j'ai pas le temps de citer, Benoît Hamon aussi quand même, bien sûr, qui fait de l'extension du régime d'assurance chômage son principal axe de réforme du régime, et il souhaite permettre à chaque entrepreneur de bénéficier d'une protection contre le chômage. On n'est pas très loin, là, curieusement, on rejoint un petit peu les mesures. On va en rester là et on va vous demander à chacun vos chiffres en vous remerciant pour vos analyses. En avez-vous préparé un, hein, Bertrand Martineau? Il est loin de notre thème ou pas?
Ben, il peut quand même s'y raccrocher, en fait. La CFDT a fait paraître un très, très intéressant et très approfondi travail, une énorme étude sur 200 000 salariés qui s'appelle Parler Travail et qui ausculte un petit peu le sentiment profond des salariés au travail. Il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est que 77% des salariés aimeraient leur travail qu'ils font. Et je trouve que c'est une petite bouffée d'optimisme.
Merci de nous le souligner. Anne Edou, votre chiffre.
Alors, mon chiffre, c'est 1%. Il est issu d'un rapport du Défenseur des droits sur l'emploi des femmes handicapées et les discriminations multiples. Et 1%, c'est la part des femmes handicapées en emploi qui accèdent à un poste de cadre. Voilà, donc autant dire que pour elles, le plafond est en béton, alors que pour l'ensemble de la population active, c'est 17% et 10% pour les hommes handicapés.
Terrible chiffre.
Et
terrible.
Je pense à cette jeune femme qui présentait la météo il n'y a pas très longtemps.
Voilà, bel exemple. Merci encore à tous les trois. Bertrand Martineau, dont je signale à nouveau, pour en finir avec le chômage, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ça date de 2015, c'est par édition plurielle et on y trouvera beaucoup d'enseignements. De Jérôme Gauthier également, Le chômage, paru aux éditions La Découverte. Merci aussi à Anne Edou. Et bien sûr à Marie Bellan et à toute notre petite équipe d'aujourd'hui, Laetitia Coya, qui réalisait l'émission avec Jason Taous et bien sûr Laurence Genepin. Pour la préparation, la documentation, venez nous retrouver sur notre site et sur Twitter. On aime bien Twitter à l'économie en question. Et je voudrais signaler aussi le début du printemps de l'économie, une manifestation très intéressante, un peu limitée en région parisienne, à Paris, mais très facile à repérer là aussi sur leur site. C'est du 20 au 23 mars. Beaucoup de débats tout à fait riches à vous signaler. Très très bonne journée à tous, à samedi prochain. Et à suivre, bien sûr, les informations.